Paul, esclave de Dieu, apôtre de Jésus-Christ selon la foi de ceux qui ont été choisis par Dieu et selon la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, dans l'espérance de la vie éternelle. Cette vie, Dieu qui ne ment pas, l'a promise avant les temps éternels. Et en son temps, il a manifesté sa parole dans la proclamation qui m'a été confiée, à moi, par ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon enfant véritable selon notre commune foi. Grâce et paix de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu mettes bon ordre à ce qui restait à régler et que tu nommes des anciens dans chaque ville, selon ce que je t'ai moi-même prescrit. S'il s'y trouve quelqu'un qui soit sans reproche, homme d'une seule femme, ayant des enfants croyants, qui ne soit ni accusé de débauche, ni insoumis. Il faut en effet que l'épiscope soit sans reproche, puisqu'il est un intendant de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porté au gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami du bien, pondéré, juste, saint, maître de soi, attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée, pour pouvoir encourager par l'enseignement saint et réfuter les contradicteurs. Il y a en effet beaucoup d'insoumis, de discoureurs futiles et de marchands d'illusions, surtout parmi les circoncis. Il faut leur fermer la bouche. Ils bouleversent des maisons entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour des gains honteux. L'un d'eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi toujours menteur, méchante bête, glouton paresseux. » Ce témoignage est vrai. Aussi, reprends-le sévèrement afin qu'il soit saint dans la foi au lieu de s'attacher à des fables juives et à des commandements d'humains qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et sans foi. Leur intelligence comme leur conscience sont souillées. Ils déclarent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils sont abominables, rebelles et inaptes à toute œuvre bonne.
Après avoir parcouru des moments forts de la vie de David, on commence ce soir une série dans le livre de Tite, un livre assez court, 3 chapitres, on aura l'occasion de les parcourir dans ces 3 prochains dimanches. Tite, c'est le nom d'un collaborateur de l'apôtre Paul. On pense qu'après sa première détention à Rome, qu'on découvre à la fin du livre des Actes, l'apôtre Paul s'est rendu avec Tite sur cette île pour y annoncer l'évangile, la bonne nouvelle qui concerne Jésus. Et en sachant qu'il allait partir, il a laissé Tite sur place pour poursuivre, terminer ce qu'il avait commencé. On le découvre là au début de la lettre. Elle est écrite à Tite, cette lettre, mais quand on lit la fin de la lettre, on découvre qu'elle devait être lue à tout le monde dans l'église, là où il se trouvait Tite. Est-ce qu'il y a des contextes où vous vous dites « j'ai beaucoup de peine à imaginer que le message de Jésus soit bien reçu » Des contextes où j'ai beaucoup de peine à imaginer qu'un changement profond, durable puisse se produire. Sur mon lieu de travail, dans tel ou tel coin de Paris, dans ce contexte-là, j'ai beaucoup de peine à voir des changements profonds et durables. Pas simplement parce que Jésus n'est pas connu et où il faudrait commencer de zéro, mais aussi parce qu'il y a une corruption telle, une manière tellement tordue de voir et de vivre, que ça paraît tout simplement improbable. Ici, il est question de Crète, mais aujourd'hui on pourrait peut-être parler d'un pays comme la Somalie, en tête de liste des pays les plus corrompus au monde, où les fonctionnements de base du gouvernement, de l'État, ne fonctionnent plus, les missions fondamentales ne sont plus présentes, services publics inexistants, corruption généralisée, économie à tonnes. Si on en parle ces dernières années, c'est pour parler de quoi ? Des pirates, prise d'otages. Alors qui, dans un contexte comme celui-là, par exemple, voudrait aller démarrer une église ? Peut-être des volontaires ce soir ? Ça paraît improbable de voir une église démarrer dans un tel contexte. Et avec la lettre de Tite, on entre un peu dans ce contexte-là. Quelque chose d'improbable. L'apôtre Paul cite, vous l'avez entendu, un poète crétois, Épiménide. Verset 12, « Crétois, toujours menteur, méchante bête, glouton paresseux. » Et dans un premier temps, ça peut faire sourire de lire ce petit proverbe. peuvent pas être si mauvais que ça, après tout. Hein ? Ils plaisantent, ils exagèrent, un peu comme les Marseillais exagèrent un peu. Mais Plutarque, il a 20 ans au moment de la lettre de l'apôtre Paul, fait allusion à une légende qui dit qu'il n'y a pas de bêtes sauvages sur l'île de Crète. Et lui, il pose la question, est-ce que c'est un souci ? Les habitants sont des bêtes, sont des sauvages. Suétone, un Romain qui a vécu entre 70 et 130, choisit un synonyme pour menteur. C'est quoi ? Crétois, exactement. Tu mens, tu fais le Crétois. Tout le monde le sait, les Crétois mentent. Et si la Somalie est tristement célèbre pour la piraterie, eh ben, c'était déjà le cas pour les Crétois à l'époque. Elle représentait un danger pour la navigation marchande en Méditerranée. Dans tous les endroits, on avait de la peine à imaginer qu'une église puisse naître, grandir, ou des changements parmi la population puissent se vivre. Ben, c'était bien Crète à l'époque. Si le mensonge, la violence, la gloutonnerie sont rois dans cette culture, qu'est-ce qui va permettre un changement ? Qu'est-ce qui peut enlever une corruption bien installée, bien ancrée ? Qu'est-ce qui va faire la différence pour Tite ? Qui doit rester dans cette situation-là. On va voir Dieu ne ment pas dans les versets 1 à 4. Entre ce qu'ils disent et ce qu'ils sont, ou ce qu'ils font, je devais mettre, les deux vont, les anciens, les faux enseignants. Et on va commencer avec Dieu ne ment pas. Cette salutation de l'apôtre Paul, c'est la deuxième la plus longue. Il a beaucoup de choses à dire en peu de temps. Mais c'est compact, c'est costaud, il met le paquet et il utilise des termes clés qu'on va retrouver dans l'ensemble de la lettre comme un avant-goût. Et tout commence avec la présentation de sa personne. Qui est-il pour écrire la lettre ? Dans quelle position est-ce qu'il se place ? Esclave de Dieu. C'est donc qu'il est soumis à Dieu. Mais en même temps, apôtre de Jésus-Christ, envoyé par Jésus-Christ, ni dictateur, ni épouvantail, au service de Dieu, mais envoyé par Jésus-Christ. Et quels sont les buts qu'il poursuit ? Deux choses, la foi de ceux qui ont été choisis par Dieu, la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété. Il est confiant que son ministère s'inscrit dans un plan de salut que Dieu, dans sa souveraineté, accomplit. Il choisit, il élit. Et pour le deuxième but, on peut dire que c'est un des thèmes centraux de toute cette lettre, une vérité qui est conforme à la piété. Par piété, on entend une vie attachée à Dieu, un comportement qui décrit un attachement à Dieu. Il y a des vérités qui n'ont pas beaucoup d'impact. Prenez par exemple quelque chose que vous avez dû apprendre à l'école, que l'eau bout à 100 degrés. Bon, vous le savez déjà, c'est déjà un souvenir, ça c'est bien. Est-ce que c'est cette vérité-là qui a bouleversé votre vie ? Est-ce qu'à partir de l'expérience que vous avez peut-être eue en classe ou votre maîtresse, moi je me souviens de la maîtresse qui avait fait bouillir de l'eau et avec le thermomètre comme témoin, est-ce qu'à partir de là, quand vous avez su que c'est à 100 degrés que l'eau bout, on ne voit plus la vie pareille ? C'est plus la même chose. Mais non, bien sûr que non. Vous pouvez même cuire des pâtes sans savoir que l'eau bout à 100 degrés. Ce n'est pas fondamental, ce n'est pas radicalement un changement radical que ça entraîne. Mais pour l'apôtre Paul, il est certain que les vérités qu'il annonce ont ce bouleversement, apportent ce changement radical dans la manière de voir. Il est question de l'espérance de la vie éternelle promise avant les temps éternels. Notre vie se situe dans une éternité passée dont Dieu est l'origine et promise par Dieu dans ces temps-là, avant les temps éternels, tout ce qui va venir après. Et Jésus se porte garant de l'accomplissement de ses promesses au cœur de l'histoire. Il y a la mort et la résurrection de Jésus, comme on l'a vu. Maintenant, pour beaucoup de nos contemporains, la mort, c'est la fin. Après le dernier souffle, c'est le vide, la nuit. Il n'existe plus rien. Pour d'autres, il y a une vie au-delà de la mort, mais c'est difficile de savoir s'il y a conscience ou non, dans un corps ou non. Et dans la manière d'y accéder, la large majorité des gens qui croient à une vie après la mort sont certaines que ça se fera sur la base d'œuvres accomplies, de mérites, d'une vie juste, d'œuvres bonnes. Et ce qui engendre son lot de questionnements, est-ce qu'on en a fait assez des œuvres bonnes ? Est-ce qu'on est suffisamment bon pour être destiné à cette vie éternelle ? Mais la bonne nouvelle que l'apôtre Paul proclame, c'est que la promesse est faite par Dieu. Et où il suffit de répondre par la foi. Et lorsque cette perspective-là, elle est bien saisie, alors ça change notre manière de voir notre vie, le présent et l'avenir. On ne peut plus vivre de la même façon. Bien comprise, elle devrait déraciner tout découragement, tout abattement. Bien comprise, elle devrait aussi éradiquer tout sentiment d'arrogance, d'orgueil. Parce que c'est sa promesse à lui. Et Dieu ne ment pas. C'est le contraste avec les Crétois qui, eux, mentent. C'est une promesse que Dieu fait et Dieu n'est pas Crétois. Pensez à les différentes personnes qui ont voulu apporter des changements dans tel ou tel domaine, dans l'environnement qui était le leur. Dans le cadre du foot, prenez l'ancien président du Bayern Munich, Uli Hoeneß, qui représentait, en reprenant le club, un modèle d'intégrité, de respectabilité, alors qu'il dissimulait des gros revenus boursiers sans les déclarer. Ou plus proche de nous, toujours dans le domaine des finances, un ministre des Finances qui dit lutter contre l'évasion fiscale alors qu'il la pratique lui-même. Un président de parti qui prône la transparence alors qu'il est en train de vouloir couvrir des financements frauduleux. On pourrait pointer du doigt ces gens en vue. Mais comme je l'entendais quand on faisait les déclarations d'impôts, pour chacun d'entre nous, on est tenté de gruger, non ? Tout le monde le fait après tout. Ou alors pour s'assurer une offre qui serait possible en téléphonie ou quoi que ce soit, est-ce qu'on n'est pas prêt à mentir un peu sur ceci ou sur cela ? Le mensonge, ce n'est pas le sport national, si bien pratiqué ? Mais le paradoxe, c'est que chacun s'indignera du fait que là, autour de nous, il y a de la corruption, là, autour de nous, il y a des gens qui nous mentent, alors qu'on peut faire le contraire soi-même. Ici, il s'agit de s'appuyer sur un Dieu, les promesses d'un Dieu qui ne ment pas. Et Jésus se porte garant d'une promesse fondée. La proclamation, elle se fait par l'apôtre Paul, c'est son ministère, et il est uni à Tite dans cette tâche. Et la salutation se termine avec grâce et paix de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Tite et l'ensemble des croyants en Crète ont besoin de cette grâce et de cette paix. Et ça vient de la part de Dieu le Père. Ils vont expérimenter à travers la méditation de cette lettre la grâce et la paix qui viennent du Père. Et la raison de cette grâce, c'est parce que ce salut ne vient pas d'eux, de leur mérite, de leur capacité à bien vivre, mais elle vient de Jésus, l'auteur du salut, le Sauveur. Si vous deviez définir ce qui va permettre à une société de changer fondamentalement et dans la durée, qu'est-ce que vous prescriviez ? Est-ce que vous allez mettre en place un système d'éducation ? Est-ce que vous allez investir lourdement en argent et en personne dans des œuvres sociales ? Est-ce que vous allez apporter une nouvelle politique ? Toutes ces choses auraient leur place pour vivre et expérimenter le changement dans une culture. Mais l'apôtre Paul est convaincu que des changements profonds se vivent dans la mesure où on ne compte pas avant tout sur les promesses des hommes, mais sur les promesses de Dieu. C'est là qu'on peut vivre un changement profond et radical. Vous imaginez si Tite était dans la position d'un représentant d'assurance, alors qu'il sait que l'assurance qu'il propose ne donne pas les garanties souhaitées? Ou alors si Tite devait vendre une voiture alors qu'il sait qu'elle est maquillée? Si Tite devait promouvoir une nouvelle pédagogie alors qu'il sait qu'elle n'a pas bien fonctionné? Mais Tite s'appuie sur les promesses d'un Dieu qui ne ment pas. Un salut accompli par Jésus, qui s'appuie non pas sur nos promesses et notre capacité à les tenir, mais sur sa promesse à lui. Il y a ensuite, une fois que la promesse est saisie, une cohérence à vivre. Et on passe au deuxième point entre ce qu'ils disent et ce qu'ils sont, ce qu'ils font. On l'a dit tout à l'heure, un des thèmes essentiels, c'est la foi qui est conforme à la piété. Autrement dit, la vérité, elle va avoir un impact sur notre manière de vivre, une vie qui plaît à Dieu. On pourrait dire, dans des mots plus courants aujourd'hui, la vérité, elle a un lien avec l'éthique. Et quelle est la perception dans notre société entre les deux, entre vérité et éthique? Alors, il y a certainement pas mal de tendances autour de nous. Je dirais qu'une courante, ce serait de dire, pour la vérité, chacun sa vérité. C'est pas ça? C'est le relativisme. Chacun peut définir lui-même sa propre vérité, ses propres convictions. L'important, c'est l'éthique, la manière de vivre. Il faut pouvoir respecter l'autre, ne pas entamer la liberté de l'autre. La vérité, elle est suspecte, mais par contre, l'éthique, elle est importante. Une autre tendance qui nous intéresse par rapport à ce texte, c'est peut-être une éthique qu'on voudrait détacher de la vérité. Prenez par exemple André Comte-Sponville dans son livre « L'esprit de l'athéisme ». Voici ce qu'il écrit. « Il m'arrive de me définir comme un athée fidèle. Athée, puisque je ne crois en aucun Dieu ni en aucune puissance surnaturelle, mais fidèle parce que je me reconnais dans une certaine histoire, une certaine tradition, une certaine communauté, et spécialement dans ces valeurs judéo-chrétiennes qui sont les nôtres. » Autrement dit, pour lui, on peut facilement détacher la vérité de l'éthique, garder l'éthique, mais laisser tomber la vérité. Est-ce que c'est vraiment le cas? Pourquoi est-ce qu'on aurait une telle éthique? Pourquoi, par exemple, on va aimer son prochain? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas tuer son prochain? Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas insulter son prochain? Dans la perspective de la Bible, ce n'est pas parce qu'on est né dans telle culture. Ce n'est pas simplement parce qu'on a trouvé des principes qu'on trouve intéressants à mettre en pratique ou parce qu'on nous l'impose, mais parce que l'autre est fait à l'image de Dieu. C'est une vérité qui va avoir un impact sur notre manière de nous traiter les uns les autres. Et pour l'apôtre Paul, il est clair que les vérités de l'Évangile vont être liées à notre manière de vivre et l'un ne va pas aller sans l'autre. Dans les versets 5 à 16, l'apôtre Paul décrit deux types de personnes dont l'enseignement et la vie vont avoir un impact. Les anciens d'abord, dans les versets 5 à 9. L'apôtre Paul, il ne se contente pas de lancer, vous l'imaginez peut-être à l'heure actuelle, débarquer sur l'île de Crète, il lance ses meetings à différents endroits sur l'île, distribution de traités, et après il se retire, c'est terminé, on laisse le message faire son travail. Non, il a participé à cette annonce de la bonne nouvelle, mais avec Tite, il veut mettre en place l'étape suivante qui consiste à souhaiter que des personnes incarnent l'enseignement et l'enseignent à d'autres. C'est le cas d'ailleurs aujourd'hui, c'était pas voulu dans le calendrier, mais aujourd'hui, ici dans l'église de la rue de Sèvres, on a nommé deux nouveaux anciens, Stéphane et Clifford, et il y a pour eux ce même désir qu'ils puissent enseigner d'autres ces vérités fondamentales. Que dit l'apôtre Paul de ces responsables à nommer? Pour commencer, comment est-ce qu'il les nomme? Il utilise deux termes différents, ancien, verset 5, épiscope ou évêque. Alors peut-être quand vous entendez évêque, vous dites, oula, alors lui, par rapport à... Et on est déjà dans la hiérarchie et les différences de hauteur. On pourrait même en ajouter un troisième, pasteur, berger. Mais quand on compare les différents textes qui en parlent, on voit que l'apôtre Paul les utilisait de manière interchangeable. C'est vrai, il reflète différentes facettes. Par exemple, le terme ancien vient de l'héritage juif et ça dit la dignité de l'office. Par contre, pour l'épiscope, c'est dans un contexte grec qu'on trouvait ce mot-là, l'idée de veiller, de surveiller l'Église, berger, vous l'avez compris, prendre soin, enseigner, nourrir. D'accord pour les noms, mais comment les choisir ? Sur quelle base ? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, demander le CV de l'un ou l'autre ici et dire « Qui a été PDG ? Qui a été dans le commerce et a eu de bons résultats dans ce domaine-là ?» Ce qui surprend à Alice, c'est que tout commence avec leur comportement, leur caractère. Sans reproche, homme d'une seule femme, ayant des enfants croyants, qui ne soient ni accusés de débauche, ni insoumis, il faut en effet que l'épiscope soit sans reproche, puisqu'il est intendant de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porté au gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami du bien, pondéré, juste, saint, maître de soi. Je ne sais pas quelle est votre impression en écoutant la liste. Vous dites, mais c'est des surhommes. Mais en fait, quelques remarques. Chacun de ces éléments est demandé ailleurs de tous les croyants. Comme si on pouvait dire, un ancien, il ne faut pas qu'il soit violent. Par contre, si on est croyant, de temps à autre, avec une batte de baseball, se promener dans la rue, bon. Non, c'est ce qu'on attend de tous les croyants. Sans reproche, ça ne signifie pas qu'un ancien ne commet pas d'erreur. À mon avis, ce serait un désaccord avec l'évangile que nous croyons. On croit que chacun d'entre nous ici commet des offenses et des péchés et qu'il a justement besoin de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu tout au long de sa vie. C'est donc pas sans péché, mais plutôt, est-ce que ça le caractérise de manière générale ? Adonné au vin, violent. Une remarque sur la mention de la famille. Une fois encore, il ne s'agit pas de rechercher quelqu'un qui serait parfait, mais est-ce que l'ancien, le responsable, prend soin de sa famille ? Ou est-ce qu'il est connu pour s'intéresser à plusieurs femmes ? Est-ce qu'il est connu pour ne pas savoir éduquer et enseigner ses enfants ? Ça peut surprendre, mais l'apôtre Paul ne démarre pas avec une sélection sur la base d'un bon CV, d'une bonne expérience de travail, mais par une vie, un comportement dans des espaces comme la famille où les choses vont se vivre ensuite sur un plan plus large avec l'Église. Et ça dit une compétence est quand même demandée, elle est requise au verset 9, attachée à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée pour pouvoir encourager par l'enseignement saint et réfuter les contradicteurs. Ça, c'est la capacité qui est demandée d'un ancien, capacité à pouvoir encourager par l'enseignement, par un enseignement sain et réfuter les contradicteurs. Ça peut être publiquement par la prédication, mais ça peut être aussi en un à un, sur un plan individuel ou dans un groupe. On retrouve ici l'importance d'une vérité qui est liée à la manière de vivre. Il y aura cohérence entre les deux. Dans notre Église, il y a des personnes comme Mathieu, comme moi-même, comme Paul Appéret, qui sont des anciens pasteurs à plein temps, comme l'apôtre Paul, lorsqu'il bénéficiait de dons, pouvait s'y consacrer à plein temps, Tite, a priori aussi. Mais il y a aussi des anciens qui le font à côté de leur travail. Et une des aspirations dans notre Église, c'est que l'on puisse s'encourager mutuellement à aspirer à ce que notre parole, à désirer à ce que notre parole, l'Église soit connue pour une Église qui va s'attacher à cette parole, où il y aura une saine aspiration chez chacun d'entre nous à vouloir enseigner et vivre de cette parole. On parlait aussi cet après-midi de la formation de Joe, de leur départ avec Anne-Sophie vers l'Angleterre pendant un temps. Et on veut encourager ce genre de désir de ministère. Ce serait magnifique de voir d'autres l'envisager aussi dans cette Église, dans les années à venir. des personnes qui auront à cœur d'enseigner la saine doctrine en même temps que de la vivre avec intégrité. On termine avec les faux enseignants. L'apôtre Paul contraste les anciens à nommer avec une autre catégorie de personnes qui se disent croyants en Crète. Verset 10, il y a beaucoup, en effet, d'insoumis, de discoureurs futiles et de marchands d'illusions. Et là, on réalise que chez eux, il n'y a pas cette soumission que l'apôtre Paul manifeste à une autorité. Non, ça paraît inacceptable pour eux d'être soumis à une autorité. Il faudrait que des responsables aient un regard sur ma vie. Inacceptable, insoutenable. Mais non content de cela, il propage d'autres enseignements. Comme le décrit l'apôtre Paul, des discours creux, marchands d'illusions. Aujourd'hui, je revenais de Suisse en train et pendant une partie du trajet, j'étais assis avec quelqu'un qui s'est dit croyant et je ne connais pas suffisamment sa vie et d'entendre un peu de son parcours, il semble avoir souffert de pas mal de difficultés dans sa jeunesse, dans son enfance. Mais plus d'une fois, il y a des choses dans son discours qui interpellaient. Il se disait sans église fixe. Il allait à différentes églises selon ce que le Seigneur lui mettait à cœur de visiter. Là, il se rendait dans une autre ville pour aller à un culte. Reconnu, dit-il, comme un prophète, comme quelqu'un qui savait donner un message de la part de Dieu, un homme de prière, mais dans le même temps, aucune redevabilité dans une église, allant d'une église à une autre, et tout se passe en direct entre Dieu et lui. Et il y avait ce mélange de laxisme et de légalisme, pas d'église fixe, on se rend dans une église différente chaque dimanche, dénonçant dans le même temps, et c'est ça les traces de légalisme, les pratiques de tel ou tel croyant, tel ou tel pasteur, voulant se distancier des choses du monde. Un mélange curieux, mais bel et bien présent, de laxisme et de légalisme. Et on le retrouve ici, au verset 15, il est question de commandements humains. Et on voit le reflet d'un arrière-plan juif. Considérer impur ou pur, telle nourriture, telle chose à faire ou à ne pas faire. Des choses qui donnent le sentiment d'être juste devant Dieu, mais qui sont des commandements humains et qui éloignent du salut accompli par Jésus. Mais des traces de laxisme aussi. Ils enseignent pour un gain, leurs œuvres témoignent contre eux. Et un des rôles de Tite, ça va être justement de mettre en place des personnes qui pourront être intègres à la fois dans leur enseignement et dans leur vécu, de reprendre ces faux enseignants, de corriger ces mauvaises perceptions. Une des questions avec lesquelles je vous laisse, c'est quel genre de personnes est-ce que vous allez suivre? Quel genre d'enseignement, d'enseignant, parce qu'il y a à la fois l'enseignement et la vie. Est-ce que vous allez suivre? Est-ce qu'il y aura ce mélange de légalisme et de laxisme? Est-ce que vous allez voir comme une originalité tel ou tel enseignement et ça vous attire, mais sans qu'il y ait cet enracinement dans les Écritures, ce fondement solide? Ou est-ce qu'au contraire, il y aura le désir d'être instruit dans une église, ça peut être ici, ça peut être une autre, mais dans une église où vous serez enraciné, où vous serez fidèle et attaché à un saint enseignement, et où il y aura cohérence. Parce que la promesse de Dieu est la promesse d'un Dieu qui ne ment pas. Et c'est sur cette base-là que toute notre vie est fondée. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te prier et te remercier pour Clifford, pour Stéphane, alors que nous avons voté pour eux cet après-midi. Nous te demandons de les garder dans cet attachement aux Écritures et dans une vie intègre et cohérente. Te prions aussi pour chacun d'entre nous que tu nous gardes, Seigneur, de vouloir rechercher l'originalité ou de trouver un réconfort dans un certain légalisme, alors que c'est cet évangile qui nous sauve, cette bonne nouvelle qui vient d'une promesse faite du Dieu éternel, qui ne ment pas, qui nous a destinés à la vie éternelle. Nous te prions pour Heather, qu'elle puisse vivre sur ce fondement solide, qu'elle puisse vivre toute sa vie dans l'attachement aux Écritures et dans le désir de les vivre. Quelle est cette vérité conforme à la piété? Nous te le prions au nom de Jésus. Amen.